Bonjour tout le monde, et je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à notre moment spécial célébration de Pâques, ce dimanche extraordinaire dans l'année. Et nous réjouissons de pouvoir avoir eu ce temps ensemble, tous ensemble, mais je vous signale qu'il y a une garderie pour les tout-petits et les enfants sont à l'école du dimanche dans leur groupe, afin que nous puissions nous concentrer actuellement. Nous les adultes, sur un récit par rapport à la résurrection de Jésus, la bonne nouvelle qui change tout. Il y a des bonnes nouvelles qui changent la vie, n'est-ce pas? Elle a dit oui. Je vais avoir mon diplôme. Le cancer est parti. Quand nous entendons des bonnes nouvelles comme ça, nous pouvons souffler un grand soupir de soulagement. Un moment de plaisir, mais surtout parce que nous avons une perspective d'avenir. Et nous partageons aujourd'hui quelque chose de plus grandiose que ces autres bonnes nouvelles, de plus bouleversant et qui change tout. La mort n'est pas la fin. Jésus n'est plus mort. Notre Sauveur est vivant. Et pour cela, nous avons l'habitude de faire le dimanche de Pâques une déclaration avec une réponse. Donc je vais faire une déclaration, je vous invite à répondre en disant « Oui, Christ est vraiment ressuscité ». Simplement en disant ceci, « Il est vivant, Alléluia, oui, Christ est vraiment ressuscité ». Ça a plus ou moins marché. La prochaine fois, l'année prochaine, on revient pour refaire cela. Luc 24, s'il vous plaît, si vous voulez juste suivre ce récit. Alors, il y a quatre récits. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit des récits différents sur ce qui s'est passé à Jésus dans sa vie. Et nous, on va juste regarder l'évangile de Luc. Et l'évangile de Luc, il y a plusieurs épisodes. Mais nous allons regarder un de ces épisodes. Luc 24, si vous avez sous les yeux. Sinon, écoutez simplement, je vais le lire. Voici ce qui s'est passé. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts ?» Celui qui est vivant. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. On va s'arrêter là. Mais ce n'est pas la dernière étape, parce qu'après, Jésus a été vu, il a mangé avec des disciples, il y a d'autres récits qui nous racontent cela. Il était présent à différents endroits par la suite, mais on va juste se concentrer sur ce qui est passé avec ce tombeau qui, ce jour-là, était vide. Voici la première fois où on a constaté que Jésus n'était pas mort, plus mort, mais il était bien en vie. Luc a mentionné les femmes qui accompagnaient Jésus. Et les disciples, cela se passait déjà au chapitre 8, il les avait nommés. Marie de Magdala, qu'on retrouve ici, une femme qui avait été guérie d'une oppression maléfique. Il y avait Jeanne, une femme qui était l'épouse d'un fonctionnaire du roi Hérode. Et il y a Marie, la mère de Jacques, probablement aussi la maman de Jésus. Jacques et Jésus étaient demi-frères. Et puis d'autres femmes. Et en fait, qu'est-ce qu'elles avaient fait au chapitre précédent? Ces femmes étaient venues de Galilée avec Jésus. Ils accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent les aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme le prescrit la loi. Voici donc les mêmes femmes qui ont vu Jésus, le corps de Jésus placé dans le tombeau, qui reviennent 2 jours plus tard au même endroit, et ce sont elles qui sont les premiers témoins de ce qui se passe. Et on va retracer leurs pas à travers ce récit que nous voulons de lire. Tout d'abord, il y a un tombeau vide. Il y a 3 éléments à considérer. Le premier, c'est un tombeau vide. Elles vont là pour mettre des aromates sur le corps de Jésus. C'était un signe de respect, c'était quelque chose qu'on faisait pour les défunts. Elles ne sont pas allées le samedi parce que samedi, c'était un jour de repos. Elles voulaient respecter cela. Et donc, elles vont dès que possible le dimanche matin. C'est encore l'aube. La pierre qui bloque l'entrée était très grande. Peut-être qu'elles espéraient que cette pierre n'avait pas été placée devant le tombeau directement, parce que vendredi, c'était encore ouvert quand elles étaient là. Ou peut-être qu'elles imaginaient qu'il y aurait d'autres personnes, des hommes, qui seraient là en train de pleurer Jésus, qui pourraient les aider à enlever la pierre pour qu'elles puissent mettre ses parfums sur le corps de Jésus. Mais elles n'imaginaient pas que la pierre serait enlevée. Et donc, ça, c'est la première surprise, c'est que le tombeau est ouvert. Et tous les évangiles mentionnent que la pierre avait bougé. Pourquoi est-ce que ce détail est significatif? Parce que ça signifie que nous devons nous poser la question, qui a bougé cette pierre? Comment se fait-il qu'elle ait bougé? Les disciples étaient nulle part. C'est seulement après que Pierre arrive, n'est-ce pas? Et le tombeau était gardé. Les gardes n'avaient pas de raison de bouger la pierre, d'ouvrir le tombeau. Et les amis de Jésus n'avaient pas le courage et les moyens de le faire. Et donc, au verset 3 du chapitre 24, elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. C'était pourtant le bon endroit. Les bandelettes étaient là, on voit au verset 12. Le corps de Jésus n'était pas là. Mon père est allé voir le tombeau de ma mère récemment. Vous avez enterré ma mère en janvier, début janvier. Et il a écrit, elle n'est pas là. Et par cela, il veut dire, elle est au ciel. Mais bien entendu, son corps est toujours dans la tombe. Mais la déclaration centrale du christianisme n'est pas qu'il y a eu une résurrection spirituelle de Jésus, mais que Jésus est ressuscité de manière physique et corporelle. À la croix, Jésus a dit, « Je remets mon esprit entre tes mains. » C'est ce qui se passe à la mort. L'esprit et le corps se séparent. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et notre corps reste là, inerte, inactif. Mais le corps est présent. Le corps a été placé au tombeau. Donc la première affirmation des femmes est que le corps de Jésus n'était pas là. Elles vont relater ensuite à Luc ce que nous lisons au verset 4, que 2 hommes leur apparurent, des messagers extraordinaires. On va essayer de réfléchir à ces messagers extraordinaires. Ce qui distingue les 2 hommes, ils ont l'air d'être 2 hommes, mais ils portent des vêtements qui sont resplendissants. N'oublions pas que nous sommes à l'aube, c'est pas en plein jour, c'est pas que le soleil reflète sur des vêtements blancs. C'est qu'ils sont brillants, ils ont une certaine splendeur, et les femmes réagissent avec frayeur parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont en présence de quelque chose de surnaturel. D'ailleurs, c'est universel. Lorsque dans la Bible, un ange apparaît, les humains ont toujours une grande frousse. Presque à chaque fois, la première chose qu'un ange doit dire à un humain, c'est « n'aie pas peur », parce que c'est notre réaction si nous rencontrons un ange. Si vous imaginez qu'un ange, c'est quelqu'un de doux et de un peu comme une peluche, de mignon, mais vous devez comprendre qu'un ange est quelque chose de terrifiant à rencontrer. Pourtant, ils ne sont pas là pour faire peur. Les anges sont venus spécialement parce que des anges, en fait, ont un rôle d'être messagers de Dieu, porte-parole de Dieu. Quand il n'y a personne d'autre pour dire un message, Dieu veut que cela communique et il envoie des anges. Et donc, c'est ce qu'ils font aujourd'hui, dire quelque chose. Non seulement ils sont extraordinaires, mais leur message est extraordinaire. Regardez cela. Ils disent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Pourquoi est-ce qu'on cherche parmi les morts? Parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort. Elles l'ont vu mourir. N'oublions pas que Jésus n'est pas mort dans un coin. Jésus est mort de manière publique, il était crucifié, il y avait des gardes romains autour, il y avait une foule autour, il y avait des témoins qui étaient là, les femmes, un ou deux disciples étaient présents, il y avait beaucoup de monde qui a vu Jésus mourir. Évidemment, il est mort. Et donc, on le cherche parmi les morts. Mais ce n'est pas ça. Même si elles ont vu son cadavre placé à l'endroit où les morts sont inhumés, il a rejoint les morts, les anges disent qu'il n'appartient pas à cette catégorie de morts. Il appartient à une autre catégorie, ceux des vivants. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. La Bible dit que c'était impossible pour la mort de le retenir. Les anges vont plus loin. Ils vont rappeler les paroles même de Jésus qui avaient été prononcées avant d'aller à Jérusalem. Et là, ce sont des paroles prophétiques. Verset 7. Souvenez-vous de ce qu'il avait dit. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et puis, il nous a dit, ah ouais, elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Alors, nous pouvons facilement penser que ces femmes, comme les hommes, disciples, étaient des idiots. Jésus leur avait quand même dit qu'il allait être crucifié, qu'il allait ressusciter. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'attendaient pas à cela? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens savent que Jésus va revenir, mais on est aussi dans la confusion par rapport à comment cela va se passer. Et puis, vous savez, Jésus a dit beaucoup de choses de manière métaphorique. Et donc, j'imagine qu'ils ont compris cette déclaration de manière métaphorique, quand en fait, elle était littérale. Elles auraient compris quelque chose du style « Je vais aller à Jérusalem et là, c'est mort. Ma carrière, ça va être la fin. Je vais mourir de honte. Après quelques jours, ça ira. » Mais là, pour le moment, ça ne va pas. Les propos de Jésus étaient de telle nature que les disciples étaient un peu tristes, mais ils étaient loin d'imaginer que Jésus, leur Messie, leur ami, leur leader, allait être littéralement cloué sur une croix. Et quand cela s'est passé, les disciples étaient tous plongés dans un cauchemar, en se disant, comment est-ce qu'on va sortir de cela? Qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ne pensaient pas à ce que Jésus avait dit. Donc les anges le rappellent, c'était le plan précis de Dieu. Jésus avait annoncé qu'il allait mourir, il avait annoncé qu'il allait ressusciter, et c'est ce qui s'est passé. Alors nous avons vu trois preuves, et chacune de ces preuves devrait être assez pour nous convaincre que Jésus est vivant. Le fait qu'il ait prédit qu'il allait mourir sur une croix nous donne l'assurance qu'il est ressuscité aussi. Celui qui a raison en prédisant l'avenir a raison sur l'avenir, n'est-ce pas? Il en sait plus. Et Jésus avait accompli bien des promesses de l'Ancien Testament. Mais il y a aussi les paroles des anges. En soi, cela devrait nous persuader que Jésus est vivant. Je sais que nous ne voyons pas des anges très souvent, mais si nous en voyons et qu'ils nous disaient quelque chose, on devrait accepter cela comme vrai, à moins que ce soit en contradiction avec l'Écriture. Et puis le tombeau vide. Même s'il n'y avait pas eu les anges, même s'il n'y avait pas eu les paroles de Jésus qu'il devait rappeler, le simple fait que le tombeau était vide, plus de cadavre de Jésus. On n'a jamais retrouvé le corps de Jésus mort. On l'a revu vivant, en pleine forme. Mais le corps de Jésus a disparu du tombeau. Et ça, c'est un élément incontournable. Alors, il y a plusieurs éléments, mais là, on en a vu trois. Je sais que cette histoire est extraordinaire, mais nous devons néanmoins la croire. Pourquoi ? Jusque-là, j'ai exprimé pourquoi nous pouvons croire que Jésus est ressuscité. Mais maintenant, j'aimerais vous montrer pourquoi nous devons croire qu'il est ressuscité. La résurrection n'est pas à classer parmi les accomplissements, les exploits individuels, les faits divers. Michelle Lee est une femme extraordinaire, une femme australienne de 50 ans. Elle quitte le Mexique à bord d'un petit bateau, toute seule. Elle va ramer à travers l'océan Pacifique, 14 000 kilomètres, avant d'arriver en Australie. 7 mois plus tard, elle a réussi cette semaine, elle est arrivée en Australie, à travers vents et marées, c'est le cas de le dire. Elle a fait ce long voyage extraordinaire, en solo. C'est un exploit. Mais si vous le croyez ou pas, ça ne change rien à votre vie. Tandis que croire en Jésus et la résurrection de Jésus, en fait, ça change tout. C'est un élément incontournable de notre foi, au point où je peux vous dire, si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité, vous n'êtes pas chrétien. On ne peut pas être chrétien et ne croire qu'à la moitié de ce que Jésus a fait. Par contre, la Bible donne aussi cette promesse. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Il est dit aussi en 1 Corinthiens 15, « Par cet évangile, vous êtes sauvés, si vous le retenez dans le terme dans lequel je vous l'ai annoncé. » Vous voyez que si on croit à l'évangile, si on croit à la résurrection de Jésus, ça a un impact sur nous. Ça nous sauve, Dieu nous sauve à travers cette foi. C'est une bonne nouvelle qui change tout. Alors un sauveur vivant accomplit notre rachat, notre libération. Regardons juste pour terminer Romains chapitre 4 et là nous allons voir un peu plus le sens de ce qui a été fait. L'épître aux Romains chapitre 4 verset 23. Et nous voyons ce qu'il a fait de nos fautes. Romains 4, 23. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, parle d'Abraham, mais c'est aussi pour nous. Elle, la foi, sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. On a parlé un peu de nos fautes aujourd'hui. En grandissant, je pense que nous reconnaissons nos fautes. Et nous devons bien avouer que ce n'est pas la faute de nos parents, ou de notre entourage, ou de la société, ou de mes profs. C'est notre propre faute. Nous avons nos propres fautes devant Dieu. Nous sommes tous coupables. Mais Jésus a été donné à cause de nos fautes. C'est-à-dire en réparation de nos fautes. Nous voilà complètement perdus. Nous n'avons pas les moyens de payer notre dette envers Dieu. Mais lui est riche en bonté et veut payer cela pour nous. Pensez à cela lorsque vous épousez quelqu'un de riche et que vous avez des dettes. Qu'est-ce qui se passe? Sa richesse élimine vos dettes. Et c'est pareil, lorsque nous nous unissons à Jésus, il élimine notre dette. Ce qui veut dire qu'à la croix, il nous a rendus justes devant Dieu. C'est pour ça qu'il parle de justification. On n'a pas besoin de se justifier. La justice est servie. Le prix a été payé. Et donc nous sommes justifiés. Et donc Jésus peut ressusciter. Il n'a plus à payer quoi que ce soit. Le sacrifice est payé. La dette est payée. La punition est faite. Tout est accompli. La résurrection nous assure que la punition pour nos péchés a été accomplie par Jésus et cela a été accepté par Dieu. Mais en ressuscitant, Jésus change un autre aspect de notre vie, notre rapport à la mort. La mort est anéantie. Quand je faisais des études de littérature, un de mes profs avait l'habitude de présenter un auteur en disant son nom et puis de demander à la classe « qu'est-ce qu'on sait de lui ?» Et j'avais un camarade de classe qui était plutôt comique et qui disait toujours la même chose. Il disait « il est mort ». Et presque chaque fois, il avait raison. On parlait de beaucoup d'auteurs qui étaient décédés. Leurs livres sont restés, ils ne sont plus là. Il est mort, il est mort. Et c'est vrai que c'est le rythme de toute personne, n'est-ce pas? Naître, vivre, écrire peut-être, ou faire d'autres choses et puis mourir. Mais j'imagine ce prof en train de dire, voilà, qu'est-ce qu'on sait sur Jésus? Ah, mais il n'est pas mort. Lui, c'est l'exception. Parce que le péché a régné depuis si longtemps par la mort. Mais maintenant, nous avons la vie, nous pouvons avoir la vie par Jésus. Ce que Jésus change par sa résurrection, c'est notre rapport à la mort. De l'autre côté de la mort, il y a une issue. Jésus peut nous permettre de voir la mort non comme victorieuse, mais comme perdante. On a fait un jeu avec les enfants lors d'un club d'enfants récemment, où les enfants devaient courir à travers la cour de récréation sans être attrapés par des pirates. Les pirates, c'était les ados. Hein. On a demandé qu'ils se déguisent comme ça. Ils couraient pour essayer d'attraper les enfants. Vous imaginez les enfants qui couraient comme ça, ils avaient peur. Mais voilà, c'était un peu le jeu, traverser cela sans être attrapé par les pirates. Mais si on élimine ces pirates, si on dit, voilà, vous les ados, vous mettez tous sur le banc, comment est-ce que les enfants vont se sentir? Ils vont traverser la cour en sautillant. Ils n'ont pas de danger. Ils peuvent traverser sans peur. Et c'est peut-être une mauvaise illustration, mais c'est pour illustrer le rapport du chrétien vis-à-vis de la mort. On doit traverser par là, mais il n'y a plus rien à craindre. Nous l'avons chanté, la chorale l'a chanté tout à l'heure. Nous traversons sans peur cela. Nous pouvons être fortifiés parce que Jésus a fait cette promesse. Celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt. Alors quand nous pensons au plus grand problème de l'humanité, problème de la mort, eh bien figurez-vous, il a été résolu. Voilà une bonne nouvelle. Alors je vais terminer en pensant à nous qui sommes chrétiens, une question par rapport à la joie. Pourquoi ne sommes-nous pas plus expressifs de notre joie? Parfois on ne se rend pas compte de ce que notre visage envoie comme impression. Parfois, je me repose et j'ai l'air de m'ennuyer. Parfois, je me concentre et j'ai l'air d'avoir mal aux dents. Mais ce n'est pas ça, c'est juste mon visage. Néanmoins, on doit sentir que ce qui a été fait il y a 2000 ans presque est quelque chose d'extraordinaire et de bon. Cela doit être quelque chose que nous ressentons, que nous méditons, que nous saisissons. Alors quand on compare cela à d'autres célébrations, vous vous souvenez, 2018, la victoire de la Belgique contre le Brésil, vous l'avez célébré les mains dans les poches. Vous vous souvenez quand vous avez appris que votre diplôme, vous avez réussi vos derniers examens, est-ce que vous avez dit, c'est bien, c'est bien. Alors je crois qu'il y a aussi un aspect de nouveauté, ce n'est pas nouveau bien sûr, on sait que Jésus est ressuscité, on le sait depuis longtemps. Et peut-être le parallèle, c'est avec un bébé qui naît. Pas un bébé qui naît, mais un bébé qui naît. Quand un bébé naît, cette semaine, on a entendu que Lucie, que plusieurs connaissent, a eu un bébé, une fille. On est réjouis tout de suite, on est fous de joie, on est très contents, on exprime cela. Mais un an plus tard, l'anniversaire du bébé, on va dire, c'est son anniversaire, il a un an, on va dire, mais c'est bien. Et probablement, on n'aura pas le même niveau de joie que la première fois qu'on a entendu cela. C'est normal d'être comme ça. Mais je voudrais quand même nous encourager, si nous sommes dans la foi, à ne pas perdre de vue la bonté de la bonne nouvelle, son impact sur nous, tout ce que ça change pour nous. La vraie différence, nous sommes justifiés et nous avons un Seigneur vivant, notre défenseur. Ça change énormément notre vie, et nous pouvons être dans la joie en pensant à cela aujourd'hui. Et ça nous aide aussi, bien sûr, face à la mort de nos proches, d'être consolés, de savoir que Jésus a changé la donne de manière définitive. Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont au tout début de leur foi ou qui ne savent pas encore ce qu'ils croient par rapport à tout cela. Je comprends, on n'est pas tous chrétiens aujourd'hui. Il faut dire que la fête de la résurrection est le moment pour se poser les bonnes questions. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne croyez pas à la résurrection de Jésus. Peut-être que votre attitude ressemble à celle des personnes au chapitre 24, verset 11, qui prirent leur discours pour des absurdités et qui ne crurent pas ces femmes. Est-ce que vous avez un a priori, vous avez déjà jugé que c'est impossible? Ou est-ce que vous serez plutôt comme Pierre qui, en entendant cette nouvelle, même si c'est extraordinaire, inouï, inimaginable, il est allé vérifier. il est allé voir pour lui-même. Et c'est à cela que je vous appelle aujourd'hui, à comprendre que ces hommes qui étaient sceptiques au départ ont fini tous par croire que les femmes avaient raison, que Jésus était réellement vivant, et à le proclamer quelques jours plus tard à Jérusalem et puis autour du monde. Nous ne devons pas courir au tombeau de Jérusalem, mais nous pouvons regarder la Bible, lire les évangiles, ce que les gens de l'époque ont écrit. Et vous verrez qu'ils étaient aussi étonnés que nous. Et pourtant, ils ont bien vu que Jésus était vivant. Alors, il y a un flyer que vous pouvez prendre qui est à la porte. Ça s'appelle « Ceci n'est pas une publicité ». Et cela va vous donner juste quelques aspects en plus d'informations. Il y a des liens sur des vidéos aussi que vous pouvez regarder pour en savoir plus sur Jésus, qui il était. Mais c'est une bonne nouvelle, une nouvelle qui change tout. Donc la question est, allez-vous croire que c'est vrai et compter sur lui, le Seigneur vivant, qui peut vous sauver. Je vais prier pour terminer. Père Céleste, nous avons entendu ce qui s'est passé il y a si longtemps, et je crois que Jésus est ressuscité. Je crois qu'il est vivant. Je crois qu'il me rend juste devant toi. Et je prie que beaucoup d'entre nous puissent croire aussi ces faits remarquables qui changent tout. Et je te prie aussi que nous puissions être dans la joie, non seulement ce matin, mais toute notre vie, en sachant que tu as réglé nos problèmes de manière définitive. Oui, il y a encore des luttes, il y a encore des difficultés, il y a encore des épreuves, mais la mort n'a plus de victoire sur ceux qui se confient en Christ. Merci, Seigneur. Amen.
Nous voulons clôturer par le chant, un chant du groupe Écriture, et ce sera vraiment la fin de ce culte de Pâques. Alléluia, Jésus vit. Levons-nous et formons une assemblée qui chante.